Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Et il est en charge de l'économie à Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Il est venu en direct au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour Hervé Guillard.
Bonjour.
Alors, j'ai envie de vous demander, avant de commencer cette interview, comment allez-vous ? Vous avez été victime en septembre d'une attaque assez violente. Comment allez-vous et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette attaque comme réflexion ?
Je vais bien. Et puis, j'ai dû en parler à peu près 300 000 fois. Donc, quelque part, j'ai verbalisé toute cette tension. Donc, ça, c'est bon. Mais oui, surtout, l'important pour moi, ça a été d'en tirer... un fil politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi dans un territoire comme Saint-Brieuc, qui est une grande ville, mais qui n'est pas non plus une métropole ? Nous, on n'a pas, c'est pas une ville de délit, on n'a pas énormément de délinquants. Vous regardez les statistiques de police, il n'y a pas grand-chose. Mais pourtant, beaucoup d'habitants se sentent pas bien, parce qu'à côté d'eux, il y a quelqu'un torse nu en train de crier, avec une canette à la main. Et ça, c'est pas un délit, on peut pas l'arrêter pour ça. Mais cette façon de croiser des modes de vie différents crée cette tension. Et cette tension, au bout du bout, c'est pas un problème de police, c'est un problème de santé mentale. Parce que quand vous avez dans cet espace public des gens qui sont sous addiction d'alcool ou de drogue et qui sont dans un état de santé à ce point complexe, c'est pas de la police qu'il faut. Une organisation de santé qui permette à ces gens d'avoir un parcours de soins. Et en tirant ce fil-là, je me suis dit qu'on était un peu à côté de la plaque, qu'on était toujours en train de vouloir mettre des policiers et des caméras, évidemment qu'on en a besoin, mais qu'à Saint-Brieuc, il nous manque une organisation qui traite des problèmes d'addiction, qui soit plus poussée et qui soit plus présente dans l'espace public, qu'on puisse identifier, donner des parcours de soins et suivre, qu'on puisse accompagner quelqu'un qui est à un moment donné en train de totalement disjoncter pour qu'il ne devienne pas dangereux pour les autres et pour lui-même. Et ça, on l'a jamais fait, on le fait pas et on n'a pas ce qu'il faut. Donc, mon chemin de croix, on va dire, ça va être de me battre pour ça, pour Saint-Brieuc.
On entend beaucoup dire d'ailleurs que la psychiatrie aujourd'hui est en crise, qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas de...
C'est clair.
Les moyens finalement de pouvoir aider ces personnes.
C'est exactement ça. Vous trouvez parfois plus de réponses à Bégard qu'à Saint-Brieuc. Or, la ville qui concentre le plus ces situations, parce que c'est sa fonction de ville-centre, c'est nous. Et on n'a pas tous les lits, on n'a pas tous les médecins, on n'a pas tous les infirmiers spécialisés qui permettent d'avoir une continuité. On a des choses à Saint-Brieuc. En urgence, je peux faire hospitaliser, mais vous allez ressortir juste après.
Voilà, le problème ne sera pas réglé, finalement.
Ouais, et puis les addictions, c'est pas simplement parce que vous avez envie de faire la fête un soir, c'est que vous êtes profondément malade. Mmh. Ça prend du temps. Et on ne traitera pas ces situations. Et donc, on n'améliorera pas la qualité de vie dans notre société si on ne le prend pas en compte. Aujourd'hui, on est focus sur maternité, urgence, grosse pathologie. Mais le lien social entre les gens passe par cette capacité à accepter l'autre et à vivre en paix. Et ça, il y a un rapport à la santé mentale là-dedans, malgré tout.
Voilà, le regard et le fait de pouvoir améliorer la prise en charge de ces personnes.
On vivra beaucoup mieux, tout le monde, si on fait ça.
Ça nous amène quelque part au budget. Vous parliez de la santé, évidemment.
Grand écart, là.
Voilà, on fait un grand écart. Mais ça nous amène aussi à cela, parce qu'on voit qu'il y a des restrictions budgétaires dans plein de domaines. Ça affecte des villes comme Saint-Brieuc, j'imagine, ces restrictions budgétaires prévues. On a parlé d'un million et demi d'euros.
Ah, c'est bien plus que ça.
C'est bien plus que ça. Alors oui. Dites-moi le chiffre.
Oui, parce que le premier tableau, on voit effectivement 1 471 000. Mais quand vous lisez l'ensemble du projet de loi, notamment sur la sécurité sociale, vous voyez plein d'autres choses apparaître. On est presque à 3 millions aujourd'hui. Mmh. On ne sait pas faire. Mmh. 3 millions, on ne les trouvera jamais. Mmh. De deux choses l'une, soit l'État s'aperçoit que ça coupe franche sur toutes les villes qui ont 40 millions de recettes, c'est stupide. Ce serait bien qu'ils s'en aperçoivent vite. Parce qu'avoir 40 millions de recettes ne signifie pas que vous êtes riche. Mmh. Ça dit simplement que votre assiette d'habitants est importante. Mais Saint-Brieuc est extrêmement pauvre, c'est une des villes les plus pauvres de Bretagne. Mais on a plus de 40 millions de recettes parce qu'on a plus de 45 000 habitants. Mmh. Donc moi, si on m'ampute de ça, ça va être très difficile. Mais les taxes sur la CNSRL, sur les retraites, sur la TVA, enfin bref, ils en ont placé partout, nous montent presque à 3 millions. C'est absolument infaisable. Ou alors, il faut fermer du service public. ce qui n'est pas concevable. Mmh. Le service public, c'est pas pour se faire plaisir, c'est que les gens en ont besoin.
Et il y a une demande, finalement.
Oui. Alors moi, je suis absolument contre ça pour une raison simple. C'est que nos villes sont équilibrées budgétairement. Je n'ai pas le droit de voter un budget en déficit, contrairement à l'État. Donc moi, je fais mon boulot. Je veux bien être solidaire avec toutes les communes de France, puisqu'elles font le même boulot que moi. Donc la solidarité, c'est entre nous. Ce n'est pas avec un gouvernement qui n'a pas été capable de gérer ses comptes et de le faire en transparence. Et il va devoir rendre des comptes là-dessus, ce gouvernement, et je ne veux pas jouer le jeu pour le couvrir.
Alors, je n'ai pas précisé en commençant, mais vous êtes place publique, hein, donc dans ce mouvement initié par Raphaël Glucksmann, à gauche donc, et on entend beaucoup la gauche s'émouvoir, ne pas être en accord avec les propositions du gouvernement. Demain, on peut très bien imaginer une motion de censure, un gouvernement qui tombe, ça serait encore un peu d'instabilité. C'est dommageable aussi pour les territoires, pour les villes, pour des villes comme Saint-Brieuc.
Oui, en fait, ce qui se passe à Paris, c'est pas ce qui se passe dans les villes. Mmh. Dans les villes, les grandes villes, les petites, les villages, les bourgs. Il faut pas oublier qu'à Saint-Brieuc, on a réussi à faire l'union de la gauche ensemble, et ça fait basculer la ville à gauche. Mmh. Mais ça a aussi fait basculer l'agglomération à gauche. Et cette façon de faire l'union à gauche a fait basculer le département à gauche. Et ça a consolidé l'équipe de Loïc Chesnais-Girard. Une ville a fait, par effet domino, tout ça. Et ça, c'est pas le NFP. Mmh. C'est des gens qui arrivent à travailler, à s'entendre ici sur le territoire. Le NFP, c'est un machin qui a été inventé au moment de la dissolution pour surtout faire en sorte qu'on reste avec le maximum de députés, voire qu'on gagne. Ça a plutôt bien réussi. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, le NFP, c'est plutôt le bazar. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de décisions, voire les postes, ils ne les ont pas eus. Mmh. Donc, quelque part, j'aurais tendance à dire, bon, qu'ils règlent leur truc là-bas. Parce que les gens, ils n'habitent pas à Paris. Ils habitent à Saint-Brieuc. Et à Saint-Brieuc, la gauche, elle sait travailler ensemble. Il y a des gens de qualité à gauche. On n'a pas eu besoin d'inventer ça pour faire un partenariat. Donc, je pense qu'il est important de bien séparer ce qui se passe là-bas, où ils ont des choses à régler, de partout, de toutes les villes en France où on sait travailler ensemble. C'est ça que je promeux. Ici, à Saint-Brieuc, l'important, c'est de consolider ce qu'on fait. Mmh. L'important, c'est que le département ne bascule pas à droite, ni la région. Et donc, il faut consolider tous ces gens et ces femmes, ces hommes qui sont capables de travailler ensemble. C'est le rôle de place publique. Moi, place publique, je ne me considère pas comme un leader. C'est quelqu'un qui s'impose. Place publique, c'est un point d'équilibre. Ce qui est important, c'est permettre à tous de trouver sa place. Et moi, je défends les idées de mes camarades des autres partis comme si c'était les miennes. Et en faisant ça, on ne s'impose pas, on devient naturel.
Alors, il y a eu cette alerte quelque part, elle a concerné Saint-Brieuc aussi, lors des législatives, lors des européennes également. On a vu la progression du Rassemblement National dans des lieux qui finalement n'étaient pas le bassin de l'électorat du Rassemblement National. Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que ça vous a inquiété? Est-ce que vous vous dites qu'il y a quelque chose qu'on a loupé quelque part?
Oui, très clairement. Je suis convaincu qu'à la prochaine élection, quelle qu'elle soit, nous ne pourrons plus faire barrage au Rassemblement National. Tout simplement parce qu'on ne peut pas continuer à dire non à plus de 10 millions de Français. C'est la France comme nous. Mmh. Ils sont aussi légitimes à voter Rassemblement National que nous autre chose. Donc il faudra apporter une autre réponse. Il faudra essayer de comprendre ce qui amène cette population à voter comme ça. Population que vous connaissez, que je connais. Elles se trouvent partout autour de nous. Et ils ont de très bonnes raisons. Quand le service public n'est plus là, ou ne répond plus comme ils le souhaitent, quand n'importe quelle décision prise à l'Assemblée met en cause votre équilibre budgétaire qui est déjà fragile, quand les aides sociales, vous n'arrivez pas à y accéder et que d'autres y accèdent et qu'on les pointe du doigt parce qu'ils sont de couleur ou d'un autre pays, vous vous resserrez sur vous-même et vous n'écoutez plus l'autre et la différence. Ce qui vient du Rassemblement National, c'est tout ça. C'est que le champ de solidarité, c'est extrêmement restreint et ne permet plus de comprendre que des décisions sont prises pour d'autres et que c'est aussi une bonne chose. Voilà le champ de travail sur lequel on doit aller. C'est immense. Mais la condition, c'est qu'on passe des mots aux actes. Le politique se berce de mots. Mmh. Nous, on est maire. Moi, je suis maire. C'est-à-dire que moi, les mots, je ne peux pas en faire. J'ai quelqu'un en face de moi. Et si je fais une parole avec des actes, sans actes, il va me le reprocher. Donc, je suis obligé d'agir. Et je crois qu'avec Place Publique, et notamment l'ensemble des forces de gauche, on est plutôt d'accord là-dessus. Il faut retravailler ce lien social dans la société. Il faut faire en sorte que chaque personne sente qu'elle compte qu'elle est utile, qu'elle a un rôle et qu'elle est respectée. C'est un immense chantier, mais on va s'y atteler.
On parle beaucoup d'écouter finalement les habitants des villes, les habitants des régions, de les faire participer, la fameuse démocratie participative. Est-ce qu'il faut en introduire encore plus de démocratie participative ? Est-ce qu'il faut finalement, pourquoi pas, faire des ateliers avec les élus pour faire remonter directement les idées sur le terrain ou les difficultés ?
Nous, on avait posé sur la table trois urgences. Urgence sociale, urgence climatique, urgence démocratique. Je suis toujours dans mon mandat sur ces trois urgences-là. L'idée, c'était de dire, si on arrive à persuader, à faire la preuve qu'un citoyen a sa place et agit sur le monde politique, eh bien, l'élection suivante, il ira voter, il y aura moins d'absentéisme. Sauf que c'est pas un gadget, la démocratie participative. Souvent, la presse me dit, ce que vous faites, c'est un peu un gadget, ça sert à rien. C'est un processus. Et ça sert à rien de mettre les gens autour de la table si la décision elle est prise. Mmh. En fait, il faut se demander à quel moment le citoyen a sa place. Ça peut être un moment d'information, ça peut être un moment de construction, concertation, ça peut être un moment de décision. Mais c'est rarement les trois à la fois. Et il faut que l'élu soit clair sur la façon dont il associe le citoyen pour la bonne raison. Sinon, il le déçoit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris. On disait au départ, on réunit tout le monde autour d'une table et puis à la fin, ça fait quelque chose. Non, non, non. La démocratie participative, ça ne marche que si vous le mettez le citoyen au bon moment. Si vous avez trop de contraintes dans votre projet, quelque part, ne lui demandez pas d'inventer quelque chose. Parlez-lui de ses contraintes, demandez-lui son avis, d'apporter son regard d'expert de vie, de citoyen, et dites-lui qu'à partir de ça, on fabriquera une décision. Et là, ça pourrait peut-être fonctionner.
Voilà, en tout cas, vous y employez, on l'a compris, avec beaucoup de ferveur à Saint-Brieuc. Il y a à Saint-Brieuc un dossier. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure en arrivant un petit peu avant cette interview de la matinale, j'ai eu une soirée courte hier soir, il y avait une réunion et en effet, puisque la ville de Saint-Brieuc fait face à la fermeture de Casino, l'hypermarché Casino, qui était dans le quartier des villages, qui est toujours d'ailleurs dans le quartier des villages. Qu'est-ce que va devenir justement ce grand ensemble ? Est-ce que ça peut devenir demain une friche ? Est-ce que ça peut devenir un terrain vague ? Est-ce que... Alors, les questions sont sur la table. Il y avait une réunion d'information hier soir. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui ?
Là, c'est ce qu'on appelle de la démocratie participative, très clairement. Donc, 7 hectares qui vont devenir une friche. Personne ne reprend ce site-là. Un grand fonds luxembourgeois décide de racheter 30 sites pour 200 millions. Saint-Brieuc est dedans, mais il n'a pas de projet en particulier. Voilà, il me dit, moi, ça fait partie de mon portefeuille, basta. Donc, moi, je vais mettre un petit grain de sable, un petit caillou dans la machine pour enrayer ça et stopper cette énorme machine en disant, il doit y avoir un projet urbain. Je suis maire, moi. Les fonds de participation, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les gens. Et les gens, ils habitent là. Ça ne peut pas rester comme une friche. Sauf que le juge, si je fais ça, il va me dire, mais monsieur le maire, vous avez le droit, intérêt général, mais vous devez avoir un projet. Soit je fais le projet avec mon équipe. C'est simple, on se met sur une table, on voit à peu près ce qu'on peut faire, ça sort. Soit je décide d'associer la population, expert de vie de ce quartier, en partant du principe que ce projet-là aura une durée de vie qui va me dépasser très largement. De quel droit je déciderai d'un projet qui est le destin de tout l'ouest d'une ville seul ? Voilà comment on fonctionne à gauche. J'associe la population hier soir, mais avec une vraie méthode de travail. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des idées dans tous les sens, qu'il y a une rentabilité pour l'investisseur. Bref, on a organisé un travail en trois temps, ce soir, avant Noël et premier trimestre, qui va permettre de poser sur la table du juge de la préemption un projet urbain. J'ai associé la population à ça hier soir, en leur expliquant qu'il fallait être responsable, que le moment était important. Et j'ai eu en face de moi que des gens qui m'ont dit « Mais vous faites bien, on a des choses à construire avec vous ».
D'autant que c'est un endroit historique de Saint-Brieuc, en tout cas pour le supermarché, l'hypermarché qui était implanté, ça faisait partie du quotidien des habitants. Donc comment modifier ce quotidien finalement ?
D'abord, il faut accepter qu'une histoire se termine. Il était là depuis les années 70, le premier mammouth rallye de
Bretagne.
Oui,
c'était mammouth d'ailleurs, oui.
Ici. Et puis, il faut penser à l'avenir et écrire une nouvelle histoire ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir. Évidemment, il faut passer de l'un à l'autre et en expliquant qu'il y a aujourd'hui l'obligation de faire un urbanisme de transition. Un projet comme ça, c'est presque 10 ans. On fait quoi en attendant ? Et ça, c'est passionnant de travailler avec les gens sur leurs besoins concrets pour essayer de fabriquer cet entre-deux. On fait quoi de tout ça en attendant ? Ça a été un des ateliers hier soir, mais malgré tout, hier soir, il y avait cette émotion de se dire on a tous un souvenir dans ce magasin qui était un lieu de vie. C'est vrai, Mais il faut écrire une nouvelle histoire. Faisons-le ensemble.
Alors, on a le sentiment, depuis quelques années, que Saint-Brieuc change malgré tout. Alors, je dis malgré tout parce qu'il y a eu beaucoup de Saint-Brieuc bashing. On en a parlé ici, hein, souvent au micro de la matinale. On a l'impression que l'image change, que le port du légué, par exemple, hein, à Saint-Brieuc se rapproche. Alors, pas physiquement, évidemment, mais redevient un port de la ville, alors qu'on avait l'impression qu'il était un petit peu à l'écart. On a l'impression aussi que Saint-Brieuc redevient une forme de lieu de mémoire de ceux qui y ont habité, des grandes personnalités qui ont habité à Saint-Brieuc, qui ont fait Saint-Brieuc à une certaine époque. Est-ce que c'est important de garder la mémoire, j'allais presque dire présente, et à la fois avancer, faire une ville changer d'aspect physique, d'aspect dans l'urbanisme également, on voit le centre-ville aujourd'hui. C'est aussi ça le travail d'un maire oui. aujourd'hui.
Surtout quand une ville n'a pas une identité évidente. Vous prenez Saint-Malo, quelque part c'est réglé, Vannes, Brest, tout ça c'est réglé. Mais à la limite, j'ai toujours pensé que pour mon copain, c'est un copain, Gilles, maire de Saint-Malo, c'est plus difficile pour lui s'il veut travailler l'image de sa ville parce qu'il est coincé. Nous, l'image de Saint-Brieuc, elle n'est pas claire parce que c'est une ville faite de vallées dont on a une représentation visuelle plus complexe. Et donc moi, mon travail depuis le début, c'est de savoir d'où vient cette ville. Cette ville, elle s'est transformée à la fin du 19e avec l'arrivée du train. Le train, ces ponts, ces voies suspendues, ces boulevards suspendus qui ont constitué Saint-Brieuc, c'est ce qui a industrialisé Saint-Brieuc et lui a donné ses universités, enfin c'est pas les universités, mais ses grandes écoles, ses lycées de l'époque. La ville est apparue à ce moment-là et elle est très marquée de cela. Je repars de là et c'est à partir de là que on invente la ville de demain. Parce que ça, c'est un imaginaire qu'on arrive à faire avec les gens. Saint-Brieuc, c'est une cité suspendue au bord de la mer. Vous repartez de cela, vous reprenez tous ces auteurs qui sont passés par ici, ces grands industriels, et vous tirez ce fil qui permet d'avoir vraiment... c'est le fil entre le passé et l'avenir, et on a tous besoin de ce fil-là. Et effectivement, le rôle du maire, c'est pas de le casser en disant « j'invente complètement autre chose ». C'est de le magnifier, c'est de le bonifier, et c'est faire que les gens en soient fiers, plutôt.
Alors il y a une interrogation aussi à Saint-Brieuc, c'est le commerce, hein. On entend beaucoup parler de la difficulté de faire revenir ou de maintenir le commerce en centre-ville. Alors c'est pas spécifique à Saint-Brieuc, hein. Beaucoup de villes connaissent ces difficultés-là un peu partout en France et ici en Bretagne. Comment là aussi le maire ou en tout cas son équipe peut peser sur les décisions de commerce qui pourraient venir en centre-ville ou pour essayer de maintenir justement ce commerce de centre-ville?
Il y a deux effets. Le premier, c'est que l'effet naturel d'un changement et d'une rotation des habitudes d'achat et donc des magasins. Il faut arrêter de pleurer à chaque fois qu'un magasin ferme. C'est un drame pour le chef d'entreprise, mais quelque part, c'est un effet naturel. Si vous étiez sur un principe d'achat qui n'est plus celui qui est attendu aujourd'hui, c'est comme on est dans le monde de l'économie, ça doit changer. Saint-Brieuc avait vraiment un tissu de commerce des années 90. Oui, il est en train de changer et de plus en plus vite. Et ce qui revient dans Saint-Brieuc fonctionne bien. Donc ça veut dire que cette mutation, il faut presque l'accélérer. Presque aller plus vite et dire oui, ça va fermer. Bah, ça ferme. Et on va vous aider à passer à un nouveau projet d'entreprise ou créer un nouveau magasin. Donc c'est ce premier levier qui est important. Les zones commerciales sont essentielles pour la ville. Les gens iront acheter là ce qu'on ne trouve pas dans le centre-ville. Et moi, ça ne me pose pas de soucis. Par contre, dans le centre-ville, vous devez vivre une expérience particulière d'ambiance, de rencontres collectives, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vous devez trouver tous ces petits magasins qui correspondent à vos modes d'achat, notamment beaucoup de magasins de bouche, très clairement, et de seconde main, seconde vie. Ça fonctionne de plus en plus. Et après, il y a le problème de l'immobilier.
Alors voilà, j'allais y venir, vous m'avez devancé. Comment fait-on?
En fait, des magasins qui sont des années 90 sont souvent dans l'état des années 90. Donc là, il y a une grave responsabilité des propriétaires. Mais ces propriétaires à Saint-Brieuc n'ont pas joué le jeu pour beaucoup, ni des loyers, ni de la qualité du bâtiment. Moi, j'ai décidé de prendre les choses en main. On a créé une concession d'aménagement, une foncière. On achète une quinzaine d'immeubles. On refait les pas de porte. On refait l'habitat qui se trouve en dessous. On passe ça à la foncière. La foncière va chercher les commerces pour se mettre dedans. Elle a été créée il y a un an. On a racheté pour l'instant 3 immeubles et on est en train de les rénover. À l'été prochain, des premiers commerces vont arriver dedans. C'est long, mais je suis convaincu que c'est le seul moyen de faire revenir et de l'habitat et des commerces au goût du jour.
Voilà, travailler sur le temps long, c'est ça aussi le travail d'un maire.
Ah bah oui, c'est même la difficulté pour les gens. Nous, on ne travaille que dans le temps long. Un projet, c'est 4 à 5 ans en moyenne. Mais quand vous êtes un citoyen, votre projet, votre avis, c'est du quotidien. Et ça, c'est difficile à articuler. D'où l'importance des élus. 45 élus, partout dans la ville, qui parlent aux gens, qui habitent dans la rue et leur quartier. C'est eux qui font la médiation. C'est, l'élu, il est important, non pas parce qu'il a un grand mandat, c'est parce qu'il parle à ses habitants en leur disant « bah oui, ce projet, c'est 3-4 ans, mais on en est là ». La médiation, l'explication de l'élu, quel qu'il soit, c'est fondamental.
Alors, il y a aussi une grande mutation à Saint-Brieuc. Les quartiers changent. On a vu des tours abattues, de l'habitat beaucoup plus, j'allais dire, humain, quelque part. On a aussi entendu, on le disait en commençant, les problèmes de sécurité à Saint-Brieuc. Alors, quand je dis problèmes de sécurité, là aussi, c'est pas un coupe-gorge, Saint-Brieuc, mais
comme partout,
villes,
on est une grande ville. Il se passe des choses, évidemment.
Et là aussi, il y a eu un travail de fait pour essayer de raccrocher les quartiers à la ville. On avait l'impression qu'il y avait des quartiers d'un côté, la ville de l'autre. Et là, on a l'impression que là aussi les quartiers se rapprochent, que les gens discutent, qu'il y a des échanges, et que ça fait peut-être tomber aussi des tensions.
Ouais, en fait, il faut avoir une bonne raison d'aller dans un quartier. Si vous n'y habitez pas, vous n'avez pas cette bonne raison, vous n'y allez pas. Donc en fait, on essaye d'organiser en matière urbanistique des lieux dans chacun de ces quartiers qui donnent une bonne raison aux autres d'y aller. Notamment sur le fameux quartier Balzac, qui était un quartier prioritaire de la ville, avec des grandes tours. L'Enrue est passé par là, a tout démoli, c'est une catastrophe l'Enrue. Ça met beaucoup d'argent sur la table, mais ça fait beaucoup de mal au lien social. Eh bien, on a tout de suite travaillé à fabriquer quelque chose là, quelque chose qui va démarrer cet hiver. C'est un grand belvédère, à peu près 35 mètres de haut, qui redonne la vue qu'on avait au dernier étage de ces tours, qui est une vue sur la baie, sur les vallées, qui est magnifique, et c'est au plein cœur de la ville. Et dans ce belvédère, il y aura un petit café guinguette qui permettra d'aller prendre un pot tout en haut et de voir ça. Je croise toujours les doigts pour qu'on arrive à monter notre fameuse tyrolienne qui traversera toute la vallée, vous imaginez ? Mais ça, ça donne une bonne raison d'aller dans ce quartier. Et quand vous y allez, vous parlez avec les gens, vous faites des activités. Vos enfants vont jouer avec tous les jeux qui sont ici, avec les habitants. Vous créez ce lien. Mais le lien, il n'est jamais naturel parfois. Vous savez, on est tous timides. Hein. Pour que le lien se fasse, il faut qu'il y ait une bonne raison. C'est un peu le boulot du politique.
Alors, ça nous amène aussi à une réflexion sur le vivre ensemble. Alors moi, je mets des guillemets, parce que le vivre ensemble, on l'a mis un peu à toutes les sauces. Je reprends une tribune que vous avez co-signée, c'était le 23 septembre dernier, dans les colonnes de nos confrères de Ouest-France, autour de l'immigration. Et ça prend tout son sens aujourd'hui, l'accueil des jeunes immigrés, des jeunes réfugiés qui viennent, il y en a beaucoup à Saint-Brieuc. Là aussi, c'est un constat, ils viennent à Saint-Brieuc, ils essaient de s'intégrer, c'est pas toujours simple. On va voir une énième loi immigration qui va être proposée par le gouvernement. 39e loi immigration. Je sens déjà votre réponse, mais je vous la pose quand même la question. Pour vous, c'était utile ou pas cette loi ?
Je pense que nos ministres de l'Intérieur ne servent pas à grand-chose. Au bout du bout, il ferait mieux d'être écrivain, puisqu'à chaque fois qu'ils sont ministres, ils écrivent un texte de loi. Par contre, dans la réalité, le concret, c'est quand moi je demande que quelqu'un qui a été pris pour trafic de drogue, migrant, sans papier, soit expulsé, il ne le fait pas. Mmh. Ça, il devrait le faire. Écrire une loi, on n'a pas besoin. Pour revenir sur la jeunesse migrante, vous acceptez, vous trouvez normal que votre fils ou que votre fille vous dise « Papa, moi j'ai envie d'aller vivre ma vie ailleurs, parce que ce que je vis ici, ça ne me va pas, et que je trouve que dans tel autre pays, ça va être formidable. » Vous trouvez ça normal et vous croisez les doigts pour que dans ce pays il soit bien accepté et que ça se passe bien. Et si c'est aux États-Unis, vous trouvez ça génial. Eh bien vous n'acceptez pas que dans un autre pays de l'Est ou de l'Afrique, on puisse rêver de votre pays comme ça. Mais la jeunesse, elle rêve d'ailleurs. D'où qu'elle vienne, c'est pas un problème de classe sociale. La jeunesse rêve d'ailleurs et on doit lui autoriser. Et quand elle arrive ici, il faut faire en sorte qu'elle soit bien traitée. Or, toutes nos lois font que ces jeunes mineurs qui arrivent ici sont maltraités. Alors pas par les institutions, le département met des millions, il fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe bien. Mais parce que la réponse n'est pas au volume de ce qui devrait être fait. Quand ces jeunes qui ont traversé l'enfer arrivent dans des hôtels enfermés et sont pris par de la prostitution ou dans des deals de drogue parce que le seul adulte qui est là, c'est un dealer, c'est une catastrophe. On doit faire en sorte que cette jeunesse soit une chance. C'est des mots tarte à la crème, tout le monde le dit, mais c'est une réalité. La jeunesse, en ce moment, elle est en danger quand elle arrive migrante à Saint-Brieuc. C'est pas normal. Alors qu'elle pourrait avoir des formations, pourrait rentrer dans des métiers en tension et pourrait participer de cette société qui, aujourd'hui, fait que vous ne savez pas, autour de vous, il y a des gens qui viennent d'un parcours de migrants. Ils vous l'ont pas dit et ils ont pas à vous le dire. Mais aujourd'hui, vous le considérez comme vous et moi, ce sont des citoyens normaux. Pourquoi on l'empêche ? Je trouve une catastrophe dans notre société qu'on empêche à la jeunesse de rêver, d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas l'accueillir.
La jeunesse qui fera finalement la société de demain.
Mais j'ai un exemple assez étonnant. J'ai un voisin dont je sais qu'il est absolument pour de gauche, donc quelqu'un de bien, et qui me racontait que sa fille, à la sortie de l'école, lui avait présenté sa copine en lui disant « Mais tu sais, elle dort dans une voiture et avec tous les parents, voudrait essayer d'aider, de faire quelque chose. » Et ce père-là m'avait dit « Mais aucun problème. » Je ne me suis pas posé la question de savoir ce que ça voulait dire migrant, de quel pays. Il a filé un coup de main. Il est allé avec les autres chercher un peu d'argent, donner un fonds pour qu'il y ait la nourriture. Il ne s'est pas posé la question de l'immigration. C'était la copine de sa fille. Ça veut dire que quand on connaît les gens, quand on a un lien direct, toutes ces histoires de migration et de loi, ça ne tient plus. Parce que ce qui compte, c'est le lien humain. Et c'est pas un côté, c'est la preuve, ce n'était pas un sujet de gauche ou de droite. Il était intéressé parce que c'était pour sa fille un lien direct avec sa copine. Il l'a fait. Je pense que dans notre société, si on arrêtait aux politiques, si on disait aux politiques, arrêtez de stigmatiser les gens parce que ce sont des gens comme vous, si on peut fabriquer ce lien en direct parce que vous allez le connaître, eh bien, on réglerait beaucoup de choses.
Il faut apaiser, il nous reste une petite minute, une minute trente, il faut apaiser cette société aujourd'hui. Il y a encore des politiques qui croient, alors je dis des politiques en termes génériques, qui croient qu'ils peuvent apaiser la société aujourd'hui, qui choisissent d'autres voies finalement.
Bien sûr.
C'est un petit peu votre parcours.
Mais c'est facile d'apaiser. Il suffit d'écouter les gens et quand ils ne disent pas la même chose que vous, d'accepter de faire un pas de côté et les prendre en compte. Ces derniers gouvernements avec ce président, franchement, à chaque fois que le peuple est descendu dans la rue, il l'a renié. Il ne l'a jamais écouté. Bah, évidemment qu'à un moment donné, la population se dit « bah, je ne sers à rien, la démocratie, je ne suis pas écouté. Le dernier, la dissolution, majoritairement, on était à gauche, même pas la gauche qui est passée. La retraite, on était dans la rue, on n'a pas été écouté. » Évidemment que chacun d'entre nous se sent bafoué au plus haut niveau. Il faut savoir faire un pas de côté. Ma vérité n'est pas meilleure que celle de la personne qui est à côté de moi. Par contre, il faut qu'on fasse un commun des deux. Donc s'il pense quelque chose qui est contraire à ce que je pense, j'essaie de comprendre pourquoi et de voir quel pas je peux faire en avant. Si tous les politiques font ça, on baisse la tension parce qu'on respecte la vie des gens.
Avec une société très fracturée aujourd'hui, une grande colère, on le disait en commençant cet entretien, et un refus d'une forme d'arrogance finalement politique qui nous mène au plus haut niveau. Pour la suite, vous êtes plutôt optimiste, vous dites voilà, les gens vont finalement retrouver la voie du dialogue, de l'apaisement, ou vous vous dites, il y aura des épreuves avant.
Alors, je suis une nature optimiste, ça énerve tout le monde autour de moi, donc je suis fondamentalement comme ça, mais je suis aussi quelqu'un de rationnel. Pour arriver à cet optimisme, à ce que ça aille mieux, il y a un chemin à faire. Je ne veux pas perdre un centimètre de ce chemin, parce que je sais que nous n'y arriverons pas si on n'étend pas le champ des solidarités, si on n'est pas plus à l'écoute en prenant en compte dans nos décisions des avis contraires, si on n'arrive pas à associer les gens en les respectant, nous n'y arriverons pas. Et moi, c'est toute la démarche pas à pas que je fais avec l'ensemble de l'équipe municipale. On est comme ça, nous. Le principe, c'est mettre les gens au cœur de notre activité municipale et surtout de mettre d'abord les plus vulnérables.
Et c'est sur cette note d'optimisme que nous allons conclure. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor en agglomération en charge de l'économie. C'est important de le dire, l'économie aujourd'hui, on en parle beaucoup aussi. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.